Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless pour vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Aujourd'hui, c'est dimanche, on va donc parler d'un personnage important qui fait l'actualité, en l'occurrence le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et puis on va aussi se tourner vers l'Europe avec Christophe Mallet et Nathanaël Bloch pour voir comment là-bas se met en place la stratégie vaccinale. Et puis enfin, on ira à Melbourne, plus précisément à l'Alliance française, pour parler du Festival du film français. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'actu, c'est parti pour le journal. Les principales actualités de ce dimanche 28 mars 2021. Le dispositif JobKeeper, ça se termine aujourd'hui et ça risque de faire quelques dégâts. Branle-bas de combat dans le Queensland où les autorités ont appris qu'un cas positif au coronavirus a organisé récemment une fête avec des amis. Et la répression sanglante en Birmanie. Hier, les autorités ont tué une centaine de manifestants pro-démocratie. Des atrocités dénoncées par la communauté internationale. À son pic, plus de 3,6 millions d'Australiens ont été couverts par JobKeeper. JobKeeper, ce dispositif mis en place par le gouvernement il y a environ un an pour soutenir le marché du travail pendant la crise provoquée par la pandémie et qui va donc être supprimé aujourd'hui. On s'attend à ce que plus de 150 000 personnes se retrouvent au chômage dès demain matin. L'économie australienne a depuis le début de la crise plutôt rebondi, d'après Margie Osmond, la patronne du Forum Tourisme et Transport. Mais elle estime aussi que pour de nombreux secteurs d'activité, et notamment pour le secteur du tourisme, la situation reste très précaire. Écoutez-la.
Look, without JobKeeper, we're anticipating the failure of probably one in five businesses here in the tourism industry in Australia. The government's done a huge amount to support. JobKeeper was a real boon. We would have liked to have seen it extended. Certainly the aviation stimulus package is going to help. Aussies feeling a bit more confident about travelling is going to help. But until those international borders open, this is going to be painful.
Et dans le Queensland, les autorités donc se démènent pour éviter l'apparition de nouvelles contaminations au coronavirus, alors qu'un homme récemment testé positif au variant britannique, qui est particulièrement contagieux, a organisé, en dépit des consignes d'isolement qui lui avaient été indiquées, une fête chez lui avec 5 autres personnes. Anastasia Palaché, la première du Queensland et qui jusqu'à présent s'est toujours démarquée en prenant, dès l'apparition du moindre nouveau cas dans son état, des mesures drastiques, a pour l'instant exclu l'idée d'un nouveau confinement à Brisbane. Elle a néanmoins demandé au Premier ministre Scott Morrison de réduire de moitié le nombre d'arrivées internationales à l'aéroport de Brisbane.
I think this is very important for two reasons. The first reason is we want to be able to concentrate on this contact tracing, but secondly, we are actually seeing large numbers of positive cases that are coming in. Like basically every day over the last fortnight, we've been seeing 5 or 6 cases. We're almost at the capacity of our hospitals that we were during the peak of the pandemic.
Et en parlant d'arrivée internationale, justement, un nouveau cas a été détecté en quarantaine dans le territoire du Nord. Son porteur, c'est un homme âgé de 32 ans. Il est rentré d'Inde il y a 2 semaines sur un vol de rapatriement affrété par le gouvernement australien. Visiblement, ce monsieur est asymptomatique et pour l'instant, il est suivi par les médecins du site de Howard Springs qui est utilisé dans le territoire du Nord pour la quarantaine des personnes de retour à l'étranger. Et puis, aujourd'hui, on s'attend également également un peu du mouvement à Canberra, puisque Scott Morrison, le Premier ministre, doit annoncer un remaniement au sein de son gouvernement. L'actuel ministre de l'Intérieur, Peter Dutton, devrait ainsi récupérer le portefeuille de la Défense, actuellement détenu par Linda Reynolds. Linda Reynolds qui, depuis les accusations de viol qui se seraient déroulées dans son ministère, est en arrêt maladie prolongé. Et puis par ailleurs, Michaela Cash, actuelle ministre du Travail, pourrait elle remplacer Christian Porter au poste d'attorney général, c'est plus ou moins le ministre de la Justice version australienne. Christian Porter qui lui aussi est sous le coup directement d'une accusation de viol qu'il dément complètement et qui est également depuis quelques jours en arrêt maladie. Alors malgré ces bousculades au sein du gouvernement, ces deux personnes, Christian Porter et Linda Reynolds, devraient néanmoins rester membres du gouvernement. Ils seront certainement réaffectés à des ministères un peu moins stratégiques. Et je vous le disais dans les titres, une nouvelle journée de répression sanglante hier en Birmanie, où d'après les organisations de défense des droits de l'homme présentes sur place, une centaine de militants pro-démocratie ont été abattus par les forces de l'ordre, ce qui fait de cette journée d'hier la plus meurtrière depuis le début du coup d'État opéré par la junte militaire le 1er février dernier. La communauté internationale, pour sa part, dénonce des meurtres. On écoute Cléa Broadhurst pour Radio France Internationale.
La junte militaire birmane a franchi un nouveau palier. Ce sont les mots employés par le ministre des Affaires étrangères britannique Dominic Raab pour qualifier la violence de la répression lors des manifestations pacifiques ce samedi. L'ONU s'est dit choquée par le niveau de cette violence où des dizaines de morts, dont des enfants, sont à déplorer. Cette répression rend d'autant plus illégitime le coup d'État et aggrave la culpabilité de ses dirigeants, a tweeté le Haut Commissariat. Les ambassades de l'Union européenne, de Grande-Bretagne et des États-Unis ont qualifié d'actes indéfendables les meurtres de ces civils, soulignant que cela en disait long sur les priorités de la junte. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues birmanes, malgré l'avertissement diffusé vendredi soir par l'armée sur la télévision d'État. Le message appelait les jeunes à cesser de participer à un mouvement violent pour lequel ils mourraient en vain, ajoutant que ces jeunes devraient, je cite, « apprendre la leçon de ceux qui sont morts après avoir été touchés à la tête et au dos ». Depuis le putsch du 1er février, au moins 400 personnes sont mortes et plus de 3000 ont été arrêtées.
Un accord historique vient d'être signé entre la Chine et l'Iran. Les deux pays viennent d'établir une coopération dont elles attendent qu'elle décuple les échanges commerciaux entre Pékin et Téhéran au cours des 25 prochaines années. Et cet accord, il prévoit également un partenariat militaire entre ces deux nations qui sont toutes deux frappées par des sanctions européennes et américaines. D'après le chercheur Thierry Coville, qui a été interrogé par RFI, cet accord, c'est d'abord et avant tout un message de la Chine adressé aux États-Unis. Écoutez Thierry Coville.
Stratégiquement, la Chine dit aux États-Unis, moi je mène ma politique, on sait que il y a une grande inquiétude en Chine sur la nécessité de sécuriser leurs sources d'énergie à l'étranger s'ils veulent maintenir une croissance élevée. Donc ils ont besoin de l'Iran et ils concluent ce contrat de 25 ans avec l'Iran qui déplaît sans doute aux États-Unis, mais là on est dans un affrontement géopolitique entre la Chine et les États-Unis. Et là je ne crois pas qu'il y ait d'autres pays qui peuvent jouer sur les choses actuellement. D'ailleurs, il y a quelques mois, quand on avait commencé à parler de ce pacte, il y avait eu des critiques même aux États-Unis qui étaient adressées à l'administration Trump, qui disaient « Voyez, avec votre politique de pression maximum, en gros, vous avez poussé l'Iran dans les bras de la Chine ». C'est pas faux. L'Iran a quand même été écrasé économiquement par la politique de pression maximum américaine, a vu que les Européens n'ont rien fait pour lutter contre cette pression maximum. Donc logiquement, ils se disent « Bon, on a intérêt à avoir des relations économiques de long terme avec un pays avec lequel on a des bonnes relations et qui ne va pas, dans quelques années, se retourner contre nous ».
En Égypte, le canal de Suez est toujours bloqué par ce porte-conteneurs Ever Given. Les efforts sur place se poursuivent depuis la terre, mais aussi à l'aide de bateaux autour de ce gros porte-conteneurs dans le canard pour décoincer ce navire qui est, comme vous le savez, bloqué en travers du canal et qui empêche donc toute circulation. On rappelle au passage que le canal de Suez est l'une des plus importantes voies commerciales du monde. On estime d'ailleurs que son blocage coûterait 400 millions de dollars américains par jour à l'économie mondiale. En France, la situation sanitaire est toujours très critique. Plus de 27 000 personnes sont actuellement en réanimation et les hôpitaux sont une fois encore, comme lors du premier confinement, au bord de l'asphyxie. Pour ne pas arriver à ce point de non-retour, le Premier ministre Jean Castex a annoncé il y a quelques jours un reconfinement dans certaines régions. Par ailleurs, les déplacements de plus de 10 km et interrégionaux sont interdits. Mais comme a pu le constater Kevin Gasser, reporter pour RFI à la gare de Lyon à Paris, les contrôles sont très rares. Écoutez son reportage.
À l'abri du vent, Julie tente d'allumer sa cigarette avant de prendre le train.
Je me rends à Montreux-Fayonne, dans le 77. Ça reste en Ile-de-France.
Mais bien loin des 10 km autorisés, cette trentenaire parisienne a décidé de prendre le risque d'une amende de 135 euros.
Ma sœur qui est seule, mère isolée, trois enfants. Je crois qu'il est temps d'aller la voir et de voir un petit peu comment elle va.
Par chance, ce samedi, en fin de matinée, aucun policier dans la gare, quand vendredi soir, au même endroit, 400 voyageurs ont été contrôlés. Dylan, 26 ans, tout juste arrivé de Lyon, s'en frotte les mains. Le motif de son déplacement n'est pas sur les attestations.
Je me déplace pour faire une soirée privée sur Paris ce soir. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter de vivre et il faut pouvoir profiter de la vie tant qu'on peut. J'ai pas eu peur, il faut être naturel et savoir braver un peu les arbres.
Voilà, on n'a pas eu de contrôle.
De toute façon, ce Nantais est dans son droit. Comme la majorité des voyageurs, il est seulement en transit à Paris.
S'il y avait des trains directs, nous, ça nous arrangerait de ne pas passer par Paris. Hein.
Les contrôles devraient être plus nombreux ce dimanche soir pour les retours de week-end.
Et comme toujours, on finit ce bulletin d'information avec un point rapide sur la météo du jour en Australie. Grand soleil et 27 degrés à Perth, 23 degrés à Adélaïde où le temps est couvert. Pareil à Melbourne où il fait 20 degrés. En revanche, le soleil brille et est haut dans le ciel de Sydney aujourd'hui avec 25 degrés. 30 degrés à Brisbane, 31 degrés à Cairns et jusqu'à 33 degrés aujourd'hui à Darwin. Magazine des sports, bienvenue dans cette nouvelle édition. On va commencer tout de suite avec du football puisque cette nuit s'est jouée la deuxième phase de qualification pour la Coupe du Monde 2022 et ça passe pour la Russie qui l'emporte 2-1 à domicile face à la Slovénie. Victoire 1-0 de la Croatie face aux Chypriotes. Les Néerlandais, eux, l'emportent 2-0 face à la Lettonie dans le cadre d'un match un peu particulier puisque c'est le seul mais aussi le premier en Europe depuis des mois à avoir été joué devant du public, en l'occurrence 5 000 spectateurs rassemblés dans la Cruyff Arena d'Amsterdam. Et décidément un match vraiment à part puisque c'est aussi le premier match de qualification pour la Coupe du Monde à avoir été arbitré par une femme et pas n'importe laquelle, il s'agit de la Française Stéphanie Frappard. Allez, rapidement sur les autres résultats de la soirée. Gros match de la sélection turque qui a écrasé la Norvège d'Erling Haaland 3-0. Un match décevant en revanche pour l'équipe de Belgique qui fait match nul 1-1 contre la République tchèque. Et enfin une injustice pour le Portugal à qui un but dans les arrêts de jeu qui aurait scellé la victoire face à la Serbie a été refusé par l'arbitre. L'arbitre qui n'a pas vu le ballon franchir la ligne de but et qui n'a pas pu non plus compter sur l'assistance vidéo qui n'était pas opérationnelle hier soir pour ce match alors que c'est quand même un match de qualification pour la Coupe du Monde. Et pourtant, eh bien, ces images au ralenti, elles montrent très bien que le ballon a franchi la ligne des buts. Cristiano Ronaldo, l'auteur de ce but refusé, a même quitté le terrain quelques secondes avant le coup de sifflet final pour exprimer sa colère. Résultat, le Portugal fait match nul 2-2 face à la Serbie au lieu d'avoir emporté 3-2. Et cette phase de qualification, elle se poursuit en fait demain avec notamment un match opposant la France contre le Kazakhstan. Pour les Bleus, l'objectif, bien sûr, c'est la victoire et faire oublier aussi un match nul assez décevant qui a eu lieu il y a quelques jours contre l'Ukraine. Mais ça ne va pas être aussi évident que ça. D'abord parce qu'ils vont jouer à Astana où le décalage horaire avec Paris est assez important. Qui plus est, le thermomètre en ce moment dans la capitale kazakh affiche des températures négatives. Alors comment se préparer pour ce match plus compliqué qu'il n'en a l'air? Je vous laisse écouter sur ce sujet le sélectionneur Didier Deschamps. Il explique comment il va faire pour préserver au maximum ses joueurs.
Le match le plus important, c'est toujours celui qui vient. Donc évidemment, c'est celui-là, mais en ajoutant les données que l'on avait avant le match et après le match qu'on a joué nous mercredi sur l'état physique des joueurs. Même si tous sont censés, les 25, s'entraîner aujourd'hui, je n'ai pas de risque à prendre. J'avais déjà prévu qu'il y ait des changements, bien évidemment, avec un groupe aussi élargi. Aujourd'hui, c'est impossible de mettre trois fois le même 11, donc ne me demandez pas combien, il y en aura un certain nombre. Je déciderai que demain, de toute façon, parce que j'ai besoin d'avoir le retour des joueurs après la séance et du staff médical aussi.
Voilà, et puis l'autre défi de ce match pour les Bleus, c'est qu'il va être joué sur une surface auquel ces joueurs qui jouent dans les plus grands clubs et les plus grands championnats d'Europe ne sont plus vraiment habitués. Le terrain à Astana est en synthétique. Je vous laisse sur ce point écouter le capitaine et gardien de l'équipe, Hugo Lloris.
Pas uniquement pour les gardiens de but, mais ça change dans les appuis, surtout. Il est très rare d'évoluer sur un synthétique dans le milieu professionnel, mais ça nous est arrivé dernièrement en Andorre. Ça m'était arrivé lorsque j'évoluais encore en Ligue 1 à Nancy ou à Lorient. Mais après, ça favorise également le jeu de passe court au sol. Donc voilà, on va essayer de prendre les marques du mieux possible tout à l'heure à l'entraînement et de jouer en sorte, en essayant de prendre le maximum de plaisir. L'utilisation du ballon sera vraiment très important. Donc s'adapter au synthétique également sera un facteur important.
Voilà, le magazine des sports, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dès mardi avec Christophe Mallet pour un nouveau point complet sur l'actualité sportive. Et maintenant, comme chaque dimanche, nous revenons sur un événement marquant de l'actualité et une personnalité qui lui est associée. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Émile, on va faire un focus aujourd'hui sur les élections législatives en Israël et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Oui, ces élections se sont tenues en Israël mardi dernier, le 23 mars. Il s'agit des quatrièmes élections du genre. En moins de deux ans, les Israéliens régulièrement rappelés aux urnes pour essayer de trouver une majorité au Parlement, à la Knesset. Benjamin Netanyahou, en effet le Premier ministre, est âgé de 71 ans. Il est en poste sans discontinuité depuis 2009. Lui qui a aussi occupé le poste de Premier ministre de 1996 à 1999. Il bat des records de longévité. Lui, le leader du Likoud, le parti de la droite nationaliste et libérale israélienne. Mais il est aussi cerné, nous le verrons, par plusieurs affaires de corruption présumée. Et sa majorité ne tient qu'à un fil depuis des mois et des mois. Benjamin Netanyahou, qui espérait donc que le scrutin de cette semaine allait enfin lui donner de l'air, une majorité franche pour gouverner, il n'en est rien, et c'est ce que prédisaient les sondages, les enquêtes d'opinion, mais il devrait néanmoins encore pouvoir rester aux manettes. Hein, si on se résume, sur les 120 sièges de la Knesset, le Parlement, le Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, compte 30 sièges, il obtient 30 sièges, et avec ses alliés de droite et d'extrême droite, eh bien on arrive à 59 sièges. Or, la majorité, elle est à 61 sièges. Ça n'est pas suffisant pour gouverner, mais en face, l'opposition est morcelée, divisée, tentée et si bien que Benjamin Netanyahou, qui est le premier ministre israélien à la plus longue longévité depuis la création de l'État d'Israël, il devrait pouvoir rester une fois encore au pouvoir. Les tractations ont débuté en coulisses pour trouver un allié de plus et former cette majorité qui tienne. Benjamin Netanyahou, qui depuis 12 ans mène une politique très conservatrice de l'implantation de colonies israéliennes dans les territoires occupés aux alliances politiques avec les ultra-orthodoxes.
Et Émile, justement, pour trouver une majorité au sein de la Knesset, Benjamin Netanyahou devra sans doute compter sur le soutien plutôt inattendu de la liste arabe unis.
Oui, tous les regards se tournent désormais vers Mansour Abbas, le leader islamiste qui a mené cette liste et dont le parti a recueilli 4 sièges. Sur le papier, c'est un énorme paradoxe. Benjamin Netanyahou et sa politique ultra-conservatrice, très restrictive, humiliante envers les Palestiniens et les Arabes, pourraient ouvrir les portes de sa coalition aux 4 députés de la liste arabe unie. Mais il n'a pas le choix. Son maintien au pouvoir est à ce prix. Benjamin Netanyahou avait intégré cette donnée avant même le scrutin et il a mené une campagne, pour une fois, assez conciliante envers les Arabes. Son ministre des colonies a reconnu ces derniers jours, je cite, que le Likoud devait considérer des options qui sont présentement indésirables, mais qui valent peut-être mieux qu'une cinquième élection. Et de fait, les Israéliens sont fatigués de ces campagnes électorales et élections à répétition. Benjamin Netanyahou, c'est un animal politique. Il est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Il se trouve que Mansour Abbas, élu, lui, au Parlement depuis 2019, est prêt à rejoindre la coalition au pouvoir. On l'a dit, les tractations sont en cours. Alors, pas forcément en décrochant un ministère, mais en soutenant le Premier ministre au Parlement. Nous devons être réalistes, dit Mansour Abbas, qui ajoute « Notre défi, c'est de nous imposer comme des partenaires dans le jeu des grands partis israéliens qui ont toujours négligé et ignoré le vote arabe. » Il faut rappeler que les Arabes représentent tout de même 20% de la population israélienne, mais de fait, cette communauté est sous-représentée dans les arcanes du pouvoir. Mansour Abbas s'est engagé auprès de ses électeurs à défendre le droit des Palestiniens à ne pas être délogés par les colons juifs, à rester dans les villes, les villages où ils se trouvent. Ces dernières années, Mansour Abbas rêvait de former une grande coalition avec notamment les autres partis arabes pour renverser justement la droite et Benjamin Netanyahou, mais les divisions l'ont emporté et aujourd'hui il serait donc prêt à rejoindre, à basculer du côté du Premier ministre.
Alors, alliance ou pas, Benjamin Netanyahou n'en demeure pas moins en sursis. Il est cerné par la justice et par plusieurs affaires.
Bien, c'est la première fois qu'un Premier ministre israélien se retrouve ainsi jugé alors qu'il est en fonction. Benjamin Netanyahou a été mis en examen en 2019 pour corruption, fraude, abus de confiance. Il y a plusieurs affaires distinctes. Il est accusé notamment d'avoir cherché à amadouer les médias en échange de promesses gouvernementales ou de lois, par exemple limitant la publication de journaux concurrents. Il y a aussi une affaire de cadeaux de luxe reçus par Benjamin Netanyahou en échange, là aussi, de renvois d'ascenseurs. L'image de Benjamin Netanyahou est donc écorné par ce procès, ces procès qui ont été ajournés, qui ont repris au début de l'année. Ils ont pollué la campagne électorale qui a précédé ces élections législatives, des procès qui vont encore durer des mois, au moins un an et demi, et ces procès qui renvoient à la conception du pouvoir de Benjamin Netanyahou. Les intérêts personnels et intérêts de la nation flirtent dangereusement. Nombre d'observateurs de la vie politique israélienne vous disent que le système démocratique israélien est à bout de souffle, un système électoral alambiqué qui rend très compliqué la formation de majorité claire. Toujours est-il que dans ce système, Benjamin Netanyahou parvient à résister toujours et encore. Il s'accroche au pouvoir et il a pour lui le succès de la campagne de vaccination contre le coronavirus. Et oui, Israël fait figure d'exception, d'exemple à ce titre hein, pour le monde entier. Toutes les personnes âgées ou presque ont été vaccinées dans le pays et la moitié de la population a reçu deux doses de vaccin. On est en train d'atteindre la fameuse immunité, tant et si bien que tous les indicateurs relatifs à la pandémie sont en train de passer au vert. Les Israéliens sont en train de reprendre une vie normale avec l'effet de la vaccination, le virus qui recule. Les restrictions sont levées une à une. Alors, il est sans doute plus facile de planifier la vaccination d'un pays de 10 millions d'habitants que d'un pays qui en compte 10 fois plus. Mais ce succès de la campagne de vaccination, indéniablement, il est à mettre au crédit du gouvernement et de Benjamin Netanyahou.
Europa Voice numéro 76 déjà, et comme à chaque fois, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
On va parler maintenant de l'Europe d'un point de vue Covid, d'un point de vue vaccinal, et cette campagne de vaccination qui évolue dans certains pays, traîne les pieds un petit peu ailleurs. En tout cas, il y a vraiment deux poids, deux mesures à travers toute l'Europe. On a du mal à y voir clair parce que c'est très compliqué de tirer le bien du mal de ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Europe. La situation vaccinale en Europe, on en est où, Nathanaël? C'est un peu compliqué tout ça.
Alors, ça a l'air compliqué, Christophe, la situation vaccinale en Europe, mais en fait, on a quand même des grands principes de cette stratégie vaccinale. Le premier élément qu'il faut rappeler, c'est que l'Union européenne a élaboré sa stratégie vaccinale, pas en ce début d'année, mais dès juin 2020, à un moment où déjà plusieurs laboratoires s'étaient lancés dans la recherche d'un vaccin et d'une manière d'immuniser le plus grand nombre de citoyens européens. Donc, la stratégie vaccinale, déjà, ça fait 8-9 mois qu'elle a été élaborée et qu'elle est pensée par l'Union européenne. Ce qui s'était passé alors à ce moment-là, c'est que l'Union européenne avait signé des contrats avec 6 laboratoires pour un montant avoisinant les 2,75 milliards de doses au total. Et l'idée de l'Europe à ce moment-là, c'est de pré-réserver au moins une partie des vaccins nécessaires à la vaccination de sa population.
Donc mettre le pied
européenne
à l'étrier de certains pays qui auraient peut-être eu plus de mal dans la négociation, dans le poids, dans la balance, de dire ok, nous en tant qu'Européens, on vous met le pied à l'étrier, mais il faut aussi mettre du vôtre.
Alors oui, mais c'est surtout en fait des grands principes qui régissent cette stratégie vaccinale et cette stratégie d'achat, parce que en fait il y a l'idée, c'est quoi? C'est que l'Europe négocie un stock total de vaccins. C'était ce qu'on avait reproché, hein. Encore une fois, on le rappelle, hein, mais répétition vaut pédagogie. On avait beaucoup à reprocher à l'Europe d'avoir raté la gestion du Covid début d'année dernière, mais encore une fois, c'était nouveau pour tout le monde et nouveau pour l'Union européenne. Par contre, on s'était dit, l'Union européenne avait bien réagi, en tout cas, semblait être coordonnée dans la mise en place de cette stratégie vaccinale. Donc, c'est l'achat d'un stock au niveau de l'ensemble de l'Union européenne. Et après, c'est une répartition entre les États membres au prorata de la population de chaque pays. Si on prend l'exemple français, c'est en fait 15% du stock total qui sera réservé à la France, parce que la France représente 15% à peu près de la population de l'Union européenne. Donc, vous voyez, on a quand même, peut-être avant d'entrer dans les critiques et dans ce qui ne fonctionne pas, on a quand même, de la part de l'Union européenne, une stratégie vaccinale qui est mise en place. Élément aussi intéressant sur cette stratégie vaccinale, c'est qu'elle comprend aussi un volet qu'on peut qualifier de mondial ou de global. Pourquoi le rationnel, en mauvais français ou en bon anglais, il est intéressant derrière ça. C'est de se dire, la Commission avait en fait considéré que, de toute façon, il était improductif d'atteindre l'immunité collective simplement en Europe, parce que la pandémie, elle n'a pas de frontières. Et on l'a vu, hein, c'était un des éléments qui était extrêmement crispant dans cette stratégie vaccinale européenne, c'était la question des frontières. Et donc l'Europe avait aussi anticipé cette question-là avec les frontières extérieures, de se dire, il y a une partie aussi de ces vaccins qui vont être produits, qui vont être achetés par l'Europe, destinés notamment à des pays moins développés. Donc vous voyez, déjà pour quand même introduire le propos, on a une stratégie vaccinale qui sur le papier avait l'air cohérente. Je passe toutes les questions de contrôle scientifique, de validation juridique des vaccins, parce que là on va rentrer dans des détails un peu plus peut-être compliqués, plus technocratiques, mais en tout cas il y a une stratégie vaccinale qui est mise en place.
Mais aujourd'hui, on en est où? Parce que si on regarde le développement de l'administration après de ces vaccins dans chaque pays, l'Allemagne a une certaine stratégie pour déployer ses vaccins, la France en a une autre qui change. On parle maintenant de vaccinodrome en France, alors qu'il en était hors de question avant de faire des vaccinodromes en France. Avant, il y avait au tout début, une des premières vaccinations, il y avait un feuillet de 45 pages, je crois, pour pouvoir administrer le vaccin. Ça a été réduit. Maintenant, on va presque le faire dans les supermarchés. Enfin. Tout ça, ça évolue peut-être dans le bon sens, mais on sent que est-ce qu'il y a quand même du tâtonnement? Est-ce qu'on apprend au fur et à mesure? Est-ce qu'on apprend les uns des autres aussi? Est-ce que c'est ça qui est important? Est-ce qu'on apprend des succès des uns des autres au sein même de l'Europe?
Alors, je crois qu'il y a toujours Christophe du côté de l'Europe. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, en Europe, l'Union européenne, enfin les règles de l'Union européenne, elles sont faites. Vous voyez, elles peuvent paraître plus contraignantes que ce qu'elles devraient être. Mais en fait, comme dans toute construction politique, vous êtes obligé de normer, d'avoir un respect des normes, une hiérarchie des normes et des grands principes sur lesquels vous devez fonder après et déployer vos politiques. La question, c'est de comparer ce qui est comparable. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'on a vu ces dernières semaines dans les médias français, moi, deux personnalités politiques que pour le coup, je trouve assez bonnes et assez même bonnes dans leur communication politique du vaccin, c'est le commissaire européen Thierry Breton et le ministre en charge des affaires européennes Clément Beaune. Et ces deux personnalités, elles ont, face à la question de la campagne de vaccination israélienne notamment, elles ont un peu botté en touche. Au lieu d'expliquer simplement que c'est difficile aussi de comparer des choses qui ne sont pas comparables entre un pays isolé au Proche-Orient, qui a une histoire complètement différente de des pays de la construction urbaine, au lieu simplement peut-être d'essayer de mettre en exergue ces différences et puis de pointer les bonnes choses, on est rentré dans des justifications de non-respect des données personnelles des personnes qui ont accepté de se faire vacciner, etc. Choses qui ne sont pas vraiment vraies. Hein, on le sait, hein, les données, même en Israël, fournies à Pfizer, elles sont anonymisées. Ce qui fait qu'il y a deux éléments qui font que la campagne de vaccination, pour prendre l'exemple israélien, ont véritablement fonctionné. Je mets de côté l'aspect culturel du pays, le fait que c'est un pays qui est souvent en guerre, donc avec des notions d'organisation dans l'urgence qui sont différentes, par exemple, de la France et de l'Europe. Donc je mets ça de côté, mais il y a deux éléments. Il y a d'abord, en fait, on sait que Netanyahou, le Premier ministre israélien, en campagne d'ailleurs actuellement pour sa réélection, il a fait le forcing auprès des dirigeants de Pfizer pour avoir le vaccin et il a mis le prix à payer pour l'avoir. Donc, je veux dire, il n'y a pas de. Voilà, c'est un fait. Ce serait assez juste de rappeler juste ce fait. Et puis, le deuxième élément aussi, qui est simple et qui explique des différences, c'est que, en échange de l'accès à ces vaccins et d'un certain nombre de doses réservées à Israël, mais payées aussi à prix fort, bah, c'est le fait que Pfizer, après, pourra utiliser ces données pour faire des calculs, pour avoir des retours d'expérience, un suivi, etc., mais données anonymisées. Vous voyez ? Donc, en fait, ce qui est surprenant, c'est que face à certains ralentissements ou ratages de campagnes de vaccination en Europe, on cherche à trouver dans le succès d'exemples étrangers des éléments qui ne sont pas tout à fait vrais. Donc c'est là, si vous voulez, on revient à cette question de la communication en politique. C'est un élément qui est important parce que encore une fois, tout le monde navigue un peu à vue avec cette histoire de Covid. Et personne n'a reproché à l'Union européenne au moment de la première vague de ne pas être prête. Ou en tout cas, c'était une critique qui était peu partagée parce que personne n'était prêt, personne ne voyait ça arriver en Australie, en France, en Israël. Maintenant, on sait. Maintenant, on est un an après la première vague de Covid. Donc la question, c'est pas qu'on ne sait pas, c'est la question, c'est avec ce qu'on sait, avec les moyens qu'on a, comment est-ce qu'on communique? Comment est-ce qu'on organise et comment on s'assure de protéger sa population?
Vous êtes d'accord avec moi qu'en France, je ne fais pas l'apologie de la France, mais en France, on a du mal à joindre les deux bouts. On a du mal à joindre cette communication politique et les faits. On le voit aujourd'hui même dans la politique de confinement. On va reconfiner, dur, ça va changer la vie des gens. Et puis en réalité, on a l'impression que tout va mieux. Donc, entre la réalité de la communication politique par l'exécutif et ce qui se passe réellement sur le terrain, on a l'impression que c'est deux mondes.
Conjuguer ça, c'est compliqué. Je pense sur le reconfinement ou le déconfinement
Même nous, on s'y perd dans la terminologie.
Non, mais je prends juste un exemple qui moi, pour faire la comparaison avec l'Australie, hein, puisqu'on émet d'SBS ici à Melbourne, qui me semble intéressant. C'est que, en Australie, ce qui s'était passé pour que le confinement soit respecté, je parle de Melbourne, quand il y avait une conférence de presse et quand il y avait une évolution des règles, il y avait un détail, mais incroyable, des activités qui étaient permises et des activités qui étaient non permises. Okay. Et lors des conférences de presse, s'il y avait des questions sur des activités non mentionnées, elles étaient rajoutées à la liste des choses permises ou pas permises. Alors que là, en France, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on navigue un peu entre les deux, on le voit même dans les attestations, on est un peu dans cet entre-deux où on a l'impression que c'est très compliqué, qu'il y a beaucoup de raisons, mais donc alors il faut en rajouter d'autres, mais on comprend pas très bien. Et je trouve que c'est ça qui est un peu compliqué, c'est le fait de ne pas trancher. Soit on fait une interdiction qui est totale, qui est catégorique, c'est, on a le droit, on n'a pas le droit de sortir, et il y a quatre raisons principales, c'est ce qui avait été fait en Australie, vous devez aller chez votre médecin, vous avez une urgence, vous êtes sur une liste de travail essentielle et puis une quatrième catégorie, ou bien vous faites quelque chose de très détaillé. Mais encore une fois, le problème, c'est que si votre liste, c'est simplement un gadget et qu'il n'y a pas d'intention politique, moi, je suis sûr qu'en Australie, l'intention politique, c'était de dire, on va dans le détail, on va vers beaucoup de privations, on va se prendre beaucoup de critiques au début. Et rappelez-vous, hein, le premier ministre du Victoria avait dit, les questions des libertés publiques au moment d'une pandémie, ce n'est pas la première des priorités. C'est contestable, vous pouvez avoir un avis dessus. Mais à partir du moment où c'est assumé, bah, vous voyez, c'est là où vous avez jeté votre ancre et c'est autour de cette ancre que vous allez naviguer. En France, encore une fois, là, ça ne passerait pas de dire que les libertés publiques ne sont pas la priorité quand il y a une pandémie.
Absolument.
Ça ne passerait absolument pas. Par contre, il faut aussi trouver un narratif, une narration autour de laquelle, après, vous allez pouvoir construire votre construction politique. Et encore une fois, l'espoir dans ça, c'est que c'est jamais trop tard. Et que si là, à partir d'avril, on rentre dans une phase de vaccination massive, de vaccinodrome, on veut accélérer, etc., c'est encore pas trop tard pour construire une séquence politique avec, encore une fois, une communication politique qui n'est pas de la communication, qui est de la politique.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre, Christophe.
Merci, Nathanaël.
Merci beaucoup.
Est-ce que les gens naissent égaux en droit ? Est-ce que les gens naissent pareils ou pas? Est-ce que les gens naissent égaux en droit? À l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareils ou pas?
Et on vient d'écouter Ayo et cette belle reprise d'une chanson de Maxime Le Forestier qui s'intitule « Né quelque part ». On va maintenant prendre la direction de Melbourne pour la dernière partie de notre émission. On va parler de cinéma français avec la directrice de l'Alliance française sur place. Il s'agit de Johanna Durand.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement. Sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Et aujourd'hui dans les studios, on a le plaisir d'avoir Johanna Durand avec nous, Johanna de l'Alliance française. Bonjour.
Bonjour.
Alors on va parler du festival du film français qui bat son plein en Australie et Dieu que c'est bon de retourner au cinéma.
Absolument, ça fait plaisir de ne pas être seul face à son écran et d'avoir un grand écran, du bon son, du champagne et surtout des amis avec qui partager ces moments d'inspiration et de rire. Moi, j'ai adoré être dans les salles et avoir un mouvement de foule. On a eu même des applaudissements, des stand-up. C'était beaucoup d'émotion pour les Victoriens de retourner dans les salles de Cinéma Palace.
Absolument. Alors, parlez-nous un petit peu de ce festival. Il y a quand même des beaux succès, des belles histoires qui ont été racontées. Globalement, vous êtes quand même contente que ce festival, on va le dire, on va toucher du bois, aille jusqu'à son terme, normalement. Hein.
Absolument. Je pense que c'est la 32e édition de l'Alliance française French Film Festival. Et c'est une édition qui a une couleur très particulière, puisque c'est l'année dernière a dû être, l'édition de l'année dernière a dû être complètement annulée. Et c'est vrai que cette année, déjà revenir dans les salles, c'était un petit peu un pari. Et un pari qui a l'air d'être gagné, puisqu'on était en bas des records d'attendance. Le public est là, le public est enthousiaste. Et on est à guichet fermé sur de nombreuses séances, donc qui étaient jusqu'à présent limitées à 75%. Et puis là, on va pouvoir enfin ouvrir. Et surtout, ce qui fait chaud au cœur, c'est les retours du public. On a une dizaine d'avant-premières mondiales, donc des films qui sont sortis nulle part ailleurs. Il y en a une douzaine qui ont été nominés au César et sont tous des films d'excellent calibre dans leur genre. Et on a beaucoup de, on va dire, de serial spectateurs qui me... Moi, j'ai des gens qui m'arrêtent dans la rue, qui me disent « Mais moi, j'ai vu 5 films, j'ai vu 10 films, j'ai vu 20 films. » Il y a même quelqu'un qui m'a dit « J'ai vu tous les films. » J'étais là, 37. C'est quand même un beau record.
C'est du sport, presque.
C'est du sport. Exactement.
Il y a des surprises sur ce festival. Il y a des films qui vous ont surpris. Pas forcément par la qualité ni par le film, mais peut-être la façon dont ça a été reçu par le public en Australie.
Alors oui, on a, puisqu'on a eu il y a quelques heures notre réunion pour décider quels films vont être dans le bouquet final des encore, donc les prolongations.
Mm-hmm. Vous allez nous le dire d'ailleurs qui est là, mais on va en parler après.
Et la surprise, c'est vrai que la grande surprise, ça a été Un divan à Tunis.
D'accord.
Arab Blues, qui est un film magnifique, mais assez intimiste, et on ne s'attendait pas à un accueil pareil du public. Et en fait, c'est le bouche à oreille qui a tout fait, et ça a été vraiment très 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 bien, très très bien accueilli. Donc, il fait vraiment partie du top 7 des films.
D'accord. Alors, dites-nous un petit peu les films qui on va passer dans le programme culturel de ce qui nous attend devant nous. Mais parlez-nous un petit peu des films qui ont été donc sélectionnés. Il y a 7 films.
Oui. Alors, donc les 7 films qui ont été demandés par le public pour jouer les prolongations, donc les encore, qui sont les projections qui vont avoir lieu après la clôture du festival du 1er au 5 avril dans toutes les salles Palace. Donc, nous avons Délicieux. Je pense que presque tout le monde l'a vu, mais pour les retardataires,
moi,
c'est vraiment... il faut pas
c'est
le rater.
Délicieux.
C'est un film sur le premier restaurant en France, juste à la veille de la Révolution française. Donc, Délicieux, ça, c'est le film à ne pas rater, qui vous met l'eau à la bouche. Pour rester sur les 5 sens, on a Parfum. Qui est donc dans le monde merveilleux de l'olfactif et qui est un petit peu qui nous donne les secrets de ce domaine assez particulier. Arab Blues, donc un divan à Tunis dont on vient de parler. De Gaulle, Apparence, Night Shift. Et Fahim, le petit prince des échecs.
D'accord.
Avec Gérard Depardieu.
Et puis, il y a la Closing Night avec Je suis là, avec Alain Chabat. Un film touchant.
Un film très touchant, une comédie romantique qui va nous faire voyager et qui va plaire. Alors, beaucoup de gens étaient mécontents parce qu'on était à guichet fermé. On a ouvert une deuxième salle, donc vous pouvez désormais acheter vos billets pour la soirée de clôture. Je suis là, qui est un film qui fait voyager.
Même s'il reste une petite semaine dans l'aéroport quand même.
Il reste une petite semaine dans l'aéroport de Séoul, mais voilà, on a quand même...
Des choses, ouais.
Voilà, des drôles d'aventures un peu, c'est un huis clos dans l'aéroport, mais on voit la perspective d'un chef français qui débarque à Séoul pour des raisons d'amour et puis qui va vivre une aventure à la fois personnelle, il y a une progression de vie, et puis...
Puis il va tomber amoureux d'un pays,
d'une culture, d'une femme. Il va retrouver aussi, renouer avec ses propres racines,
sa
famille, ses enfants. Donc c'est fort en émotion et ça fait plaisir. Et je pense que ça parlera aussi aux voyageurs que sont les Melbourniens, même si on est un peu au sol en ce moment.
Ouais.
Mais ça permet de s'évader et voilà, tout toutes ces notions de voyage et d'échappée belle se retrouvent dans ce film qui est, voilà, qui est un très beau film.
Voilà. Où est-ce qu'on peut, vous nous rappelez où on peut réserver les places de cinéma, voir le programme et comment réserver les billets?
Oui, alors tout se trouve sur le site internet AF French Film Festival et sur le site internet de palacecinema.com.au.
D'accord, alors le 10 avril à 8h, il me semble qu'il y a un concert avec Nadea. Alors Nadea, on la connaît parce qu'elle était à So Frenchy So Chic, elle a fait pas mal de choses depuis quelques années, et là elle fait un concert pour vous avec les garçons.
Oui, c'est une franco-australienne, effectivement, qui a été mise en lumière récemment à So Frenchy So Chic et qu'on a envie de soutenir, et donc qui continue son aventure donc à Melbourne et qui sera en concert le 10 avril au Learbird Lounge à Ripon Lee.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut signaler d'autre? Je crois qu'il y a votre nouveau site internet qui va être mis en action.
Oui, on a profité de ce temps un petit peu d'introspection pour réfléchir et puis se faire une peau neuve. Donc on va avoir un tout nouveau site web qu'on espère beaucoup plus fonctionnel et facile de navigation pour vous emmener explorer toutes les offres de l'Alliance française qui sont nombreuses. Et souvent on me dit « Ah mais moi je ne savais pas que vous faisiez ceci, que vous aviez telle offre. Ah mais on ne savait pas que c'était aussi pour les Français, on ne savait pas qu'il y avait aussi pour les enfants et pour ceci, cela. » Donc là, vous aurez vraiment tout sur le même site de façon simple et rapide. Donc à partir de la semaine prochaine, vous aurez notre tout nouveau site web.
D'accord, impeccable.
Même adresse.
Tout change, mais sous l'adresse. C'est bien entendu les vacances qui arrivent, les vacances de Pâques. Alors on va parler maintenant, ça va être la transition avec les cours. Qu'est-ce qui se passe en fait en termes de cours? Et vous avez souvent un programme pour les enfants à Pâques?
Oui, effectivement.
Enfin, pour les vacances, en tout cas.
Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que je dois féliciter à la fois nos enseignants qui ont été exceptionnels depuis un an, puisqu'en 24 heures, si on fait un retour en arrière, ils étaient passés en ligne. Et depuis, il y a eu beaucoup d'évolutions. Ils se sont fortement adaptés, innovés. Donc, ça fait un an qu'on est en ligne. Nos apprenants nous ont suivis, puisqu'on a à peu près 800 apprenants en ligne actuellement, donc ce qui est assez important. Ils ne se sont pas essoufflés, ils ont gardé la flamme du français, je dirais, même en ligne. Donc moi, je tiens à leur tirer mon chapeau. Et puis maintenant que les restrictions se sont levées, ça va être l'occasion d'explorer de nouveaux territoires, puisqu'on ne va pas retourner en face à face exactement de la même manière. On va toujours garder le en ligne. Donc tous les cours que nous avons offerts depuis un an, on va continuer à les offrir pour tous les publics, tous les niveaux. Ce sera accessible en ligne parce qu'on souhaite garder cette offre pour qu'il n'y ait plus de discrimination géographique et que les gens qui sont au fin fond du Victoria ou de Tasmanie puissent avoir accès aux cours en ligne. Sur site, donc toujours à Sainte-Kilda, au centre-ville, ainsi que dans de nouveaux endroits, nous allons avoir une offre qui va être plus axée sur la culture, la conversation, la phonétique, des choses où l'interaction humaine en face à face a vraiment de la valeur ajoutée et du sens. Donc on va vous attendre pour ce terme 2 à partir du 19 avril. Et pendant les vacances, évidemment, l'emphase va être sur l'offre pour les enfants, les adolescents, surtout des choses ludiques pour s'amuser à Sainte-Kilda.
D'accord. Et d'un point de vue culturel plus large, en sortant de l'Alliance française, il y a des choses à la NGV, je crois. Il se passe pas mal de choses d'un point de vue culturel. Hein. L'Australie, ça a été dit dans un article d'ailleurs du Figaro, l'Australie, c'est le nouvel Eldorado de la culture, un peu dans le monde.
Absolument. Et j'ai envie de dire Melbourne. Melbourne ouais. Est l'Eldorado de la culture. La culture revit, renaît. Et l'Alliance accompagne, on va dire, la croissance et l'ascension, un petit peu tel un phénix. C'est vrai que Melbourne a été dans les cendres l'année dernière. Et aujourd'hui, ça remonte. Et on peut voir un peu cet éveil avec de plus en plus d'événements, d'activités culturelles. Si on devait en noter que trois, je dirais, dans vos agendas tout de suite, il faut noter effectivement les expositions à la National Gallery of Victoria, puisqu'on a une exposition au mois de juin sur l'impressionnisme français, toujours au mois de juin une autre sur Camille Henro, et puis au mois de juillet, ça va être Federation Square. On a évidemment le Bastille des Festivals le 16 et le 17, et avec une installation gigantesque de Cyril Lancelin, 25 mètres par 30 mètres, en plein milieu de Federation Square. Donc ça va être très, très impressionnant, et une myriade d'activités autour, notamment des Frenchie Fridays et d'autres activités autour du français. Donc ça va être assez excitant. L'hiver s'annonce riche et plein d'événements. Donc suivez-nous sur le site internet afmelbourne.com.au.
Et il y a tous les réseaux sociaux également.
Exactement, tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et puis surtout devenez membre.
Ouais.
J'ai envie de dire, c'est le moment, s'il y a un moment où s'inscrire, puisqu'on a un tarif préférentiel pour vous inviter à redevenir membre de l'Alliance française, bénéficier donc de l'accès en ligne à Culture Tech, de l'accès voilà, des réductions pour le Festival du Film, et puis surtout le droit de voter à l'Assemblée Générale qui aura lieu le 31 mai sur Zoom.
D'accord, et ben, c'est noté. Merci Johanna.
Merci beaucoup Christophe, à bientôt.
Votre communauté, vos conversations. SBS French. Surfing Jack. Surfing Jack. Surfing Boogie Boogie. Victor Madison Jack. Surfing Boogie Boogie. Victor Madison Jack.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte avec le morceau Surfing Jack de Laurent Voulzy. Et puis nous, eh bien, on se retrouve mardi à 13h précise pour une nouvelle émission en direct. Elle sera présentée par Christophe Mallet. D'ici là, bien sûr, vous pouvez continuer à nous écouter quand vous voulez en podcast. Et c'est bien sûr gratuit. Pour le faire, eh bien, vous pouvez télécharger notre application SBS Radio, mais vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne sur toutes les bonnes plateformes de streaming audio, de Spotify à Apple Music, on est partout. Passez à tous un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.